Il est 22h sur Europe 1. C'est l'heure du journal, Théo Manval.
Nous avons de toute façon toujours porté la conviction suivante, que c'est à travers le dialogue social que nous pourrions parvenir à un compromis.
Compromis, le mot est sur toutes les lèvres au gouvernement ce soir avant la journée cruciale de demain sur la réforme des retraites. La Premier ministre et syndicats se retrouveront pour négocier alors que 4 jours de blocage vont débuter dans les raffineries.
Nous, c'est sûr, jusqu'au 10 à 14 heures, date de la prochaine Assemblée Générale. Aucun produit ne sortira de la raffinerie.
Alors comment se préparent les uns et les autres? Sur quel point peut-on vraiment avancer? On voit ça dès le début du journal avec François Geffrier. Dans ce journal également, Harvey Weinstein inculpé de 2 nouvelles agressions sexuelles en Californie. Alors que s'ouvrait cet après-midi à New York, ce qui sera donc son premier procès où ses accusatrices, notamment les plus célèbres, se sont fait entendre.
Cher Harvey, aujourd'hui, la justice se penche sur un super prédateur. Toi.
Nous ferons aussi le point sur la situation en Australie où le gouvernement déploie l'armée pour tenter de lutter contre les incendies. Sur les dessous, qui se précise de la fuite de Carlos Ghosn du Japon? Avant l'avion, il a pris le train. Attention, grippe et gastro sont au rendez-vous en ce début d'année. Et puis le flop de Netflix aux Golden Globes, 34 nominations pour seulement 2 statuettes au final. À 22h20, l'interview écho de Carole Ferry. Excellente année 2019 pour l'automobile en France. On en parle avec François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français. Avant bien sûr la bourse et vos prévisions météo pour demain avec Anissa.
Europe 1.
Vous êtes nombreux à avoir fait votre rentrée aujourd'hui après les fêtes de fin d'année. Pour le gouvernement et les syndicats, la reprise cruciale, c'est demain, journée de négociation à Matignon, alors que 2 journées de manifestations interprofessionnelles sont déjà prévues pour jeudi et samedi. Si les 2 tiers des Français restent opposés à un âge pivot, selon un sondage Elab publié ce matin, la situation dans les transports use aussi certains. Alors va-t-on enfin trouver une ouverture? La porte-parole du gouvernement a insisté ce matin sur un terme, le compromis.
Nous avons de toute façon toujours porté la conviction suivante, que c'est à travers le dialogue social que nous pourrions parvenir à un compromis, et c'est à cela que le président de la République a appelé avec le gouvernement.
La porte-parole du gouvernement ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Compromis donc, François Geffrier. Qu'est-ce qu'on en dit du côté des syndicats? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion prévue demain?
Eh bien, quand on commence à négocier, on commence en étant gourmand et inflexible. Or là, c'est l'étape d'avant la négociation. Tout le monde autour d'une table, chacun prend la parole pendant 5 minutes et c'est fini, on se revoit plus tard. Par ailleurs, demain, on ne discute pas du tout du cœur de la réforme des retraites, les points, les âges, etc. Non, on discute de 2 choses. Comment garder les seniors dans l'emploi? Autrement dit, ne pas risquer d'être mis au chômage quand vous fêtez vos 45 ou vos 50 ans. Et puis, que faire face à la pénibilité du travail? Alors là-dessus, je peux vous dire que j'ai appelé tous les syndicats et les organisations patronales cet après-midi. Il y a un fossé entre les deux. Les patrons veulent bien faire un geste sur la prise en compte du travail de nuit, par exemple, mais pour le reste, c'est niet. Les syndicats, eux, veulent la prise en compte de nouveaux critères de pénibilité, les postures pénibles, le port de charges lourdes, par exemple, des critères qui ont existé dans la loi, mais que ce gouvernement a supprimé en 2017. Difficile de se dédire. Donc non, pas de compromis demain, mais qui sait, peut-être des surprises, puisque Édouard Philippe lui-même doit prendre la parole au début des discussions.
François Geffrier du service économie d'Europe 1. Ça ne sera pas simple, donc autour de la table à Matignon demain. Et à l'extérieur, les syndicats continuent de mettre la pression, puisque ce sera aussi le début demain de l'appel au blocage des raffineries jusqu'à vendredi partout en France, à l'initiative de la CGT Chimie, qui prend pour exemple la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne. Les salariés y sont en grève depuis le 5 décembre. Et Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, est allé leur afficher son soutien tout à l'heure. Hélène Terzian.
Bah bienvenue déjà.
Merci.
Merci d'être venu.
On nous a dit que ça servait à quelque chose.
On a besoin des gens comme vous.
Sur le piquet de grève entre le feu de fortune et la tente dressée devant la raffinerie, le dialogue s'engage entre Jean-Luc Mélenchon et les grévistes.
Vous la ressentez comment, la négociation?
La négociation, on la sent très mal se passer. Voilà, depuis le 5, on est dedans, on est en reconductible. Les appels nationaux, c'est bien, mais il faut maintenant qu'on rentre dans un vrai rapport de force.
Rien n'a jamais été donné comme ça.
Non.
autrement qu'enlevé par la lutte.
En Assemblée générale, les grévistes votent l'arrêt de toute expédition par route ou par pipeline de carburant vers les dépôts, explique Marin Guillotin, élu force ouvrière à la raffinerie.
C'est sûr, jusqu'au 10 à 14 heures, date de la prochaine Assemblée générale, aucun produit ne sortira de la raffinerie. On ne respecte plus notre travail et nos retraites, on ne fait plus sortir le fruit de notre travail.
Un moyen d'action utile pour faire plier Emmanuel Macron, acquiesce le leader de la France insoumise.
Ça fait un moment qu'ils auraient pu ne plus laisser sortir un seul litre. Ça monte d'un cran, pourquoi ? Parce que l'autre aussi est monté d'un cran. Ils disent, bon, moi je pars en vacances, on verra le 9 janvier. Ils sont obligés d'être en grève encore plus longtemps. Les gens, ça les motive, puisqu'ils ne comprennent pas, faudra ça.
Des grévistes qui donnent eux aussi rendez-vous le 9 janvier, prochaine journée de mobilisation nationale.
Reportage à Grandpuy signé Hélène Terzian. Et notez que Jean-Luc Mélenchon sera l'invité de Sonia Mabrouk demain matin à 8h15. Aujourd'hui, ce sont les avocats qui ont également entamé une semaine de grève, semaine justice morte, votée en Assemblée Générale à Lyon, Bordeaux, Bayonne ou encore Dijon. À la SNCF, comptez demain au 34e jour du mouvement, 3 TGV sur 4, 1 Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Il est 22h, passé de 6 minutes. Merci d'écouter Europe 1. Après l'annonce par le parquet de Paris de l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur à son encontre, le ministère de la Culture demande le retrait de l'aide financière accordée depuis 17 ans maintenant à Gabriel Matzneff, l'écrivain au penchant ouvertement pédophile, touché de l'argent du Centre National du Livre, argent destiné aux auteurs à faible revenu, pour un total de 160 000 euros depuis 2002, soit l'équivalent de 780 euros par mois. Alors qu'aux États-Unis, c'est une annonce dont le timing ne doit sûrement rien au hasard. Le procureur de Californie inculpe ce soir Harvey Weinstein pour deux nouvelles accusations de viol à Los Angeles. Et ce, alors que s'ouvrait cet après-midi le procès ultra médiatisé de l'ancien producteur star d'Hollywood concernant deux autres plaignantes à New York cette fois-ci. Harvey Weinstein qui est apparu très affaibli à l'audience alors que de nombreuses actrices l'accusant d'agression sexuelle ont pris la parole devant le tribunal. Xavier Yvon.
Oui, l'ancien producteur tout-puissant, habitué à défiler la tête haute sur les tapis rouges d'Hollywood, est arrivé appuyé sur un déambulateur encadré de ses avocats. Récemment opéré du dos, Harvey Weinstein, en costume gris, a péniblement monté quelques marches pour rentrer dans la Cour suprême de l'État de New York, sous le feu des appareils photo, des caméras du monde entier et sous le regard de certaines de ses accusatrices, dont les actrices Rosanna Arquette et Rose McGowan, qui affirment avoir été violées par le producteur il y a plus de 20 ans. Elle a ensuite lu une lettre à son intention face au tribunal.
Dear Harvey, cher Harvey, today, aujourd'hui, la justice se penche sur un super prédateur. Toi. Je suis venue ici pour me tenir aux côtés de ces autres femmes que tu as aussi blessées. Qu'on soit parvenu à ce moment de justice, c'est bouleversant. Ce procès a une telle signification. Aujourd'hui, c'est un jour pour nous.
Et à l'intérieur du tribunal, c'était un jour pour la procédure. Première audience technique, comme prévu, elle a à peine duré 1h30. À partir de demain, commencera la sélection des jurés, tâche ardue et essentielle qui devrait prendre 2 semaines. Ensuite seulement, le procès tant attendu pourra vraiment commencer.
Merci à vous Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis qui annoncent ce soir le retrait à venir de leurs troupes d'Irak. En respect, disent les commandants militaires, au vote du Parlement irakien de ce week-end qui exigeait ce départ après la frappe américaine sur un aéroport de Bagdad qui a abouti à la mort du général iranien Qassem Soleimani. En Australie, à présent, l'énergie du désespoir pour tenter de lutter contre les incendies hors de contrôle qui ravagent le pays. Le gouvernement a déployé des militaires, des réservistes, appuyés par des renforts venus des États-Unis et du Canada pour lutter contre les flammes. Pauline Jacquot, ce sont désormais 5 millions d'hectares qui sont partis en fumée.
Oui, des centaines de foyers ne sont toujours pas maîtrisés. Sur la côte est, des milliers de personnes ont été évacuées. Et mesure exceptionnelle aujourd'hui, l'armée est venue en renfort. 3000 réservistes sur la zone pour distribuer de l'eau, des vivres, rétablir l'électricité. Après un week-end catastrophique, le bilan humain s'alourdit de jour en jour. Le Premier ministre Scott Morrison s'est adressé aujourd'hui à la population.
24 personnes sont mortes à travers le pays. 18 d'entre elles en Nouvelle-Galles du Sud, 3 dans l'État de Victoria, 3 en Australie du Sud et 2 personnes sont toujours portées disparues. Pour ceux qui ont perdu des proches, pour ceux qui ont tout perdu, nous vous réaffirmons notre soutien, nous serons à vos côtés pour reconstruire et panser les plaies.
1 500 maisons ont été détruites par les flammes et 500 millions d'animaux ont été tués dans ces incendies depuis le début du mois de septembre. L'Australie n'est pas encore entrée dans la haute saison des incendies, donc ça ne devrait pas s'améliorer tout de suite d'après les autorités. Ces feux pourraient encore continuer 4 à 5 semaines, des mois même, disent certains spécialistes. Et les pompiers ont déjà prévenu, face à l'ampleur de ces feux, nous ne pouvons plus éteindre les flammes, simplement les orienter de manière à ce qu'elles fassent le moins de dégâts possible.
Pauline Jacquot pour Europe 1. Et 5 millions d'hectares à titre de comparaison, c'est presque autant que la superficie d'un pays comme l'Irlande. D'un bout à l'autre du globe, on part maintenant au Japon où, une semaine après sa fuite, de nouveaux détails continuent d'émerger sur les conditions de l'évasion de Carlos Ghosn. On savait que pour rejoindre le Liban via la Turquie, l'ex-patron de Renault Nissan avait pris un jet privé. Pierre Herbulot, on découvre aujourd'hui qu'avant ça, il a fait beaucoup plus simple. Il a pris le train.
Oui, c'est ce que révèlent nos confrères japonais de la NHK grâce aux images de vidéosurveillance de caméras un peu partout au Japon. On a pu retracer l'itinéraire de Carlos Ghosn de sa résidence jusqu'à l'aéroport et ça commence par une petite marche jusqu'à la gare de Tokyo. L'ex-patron de Renault Nissan prend le Shinkansen, le train le plus rapide du monde au look futuriste, direction Osaka, à 500 km de là. Deux personnes l'accompagnent, la police japonaise est en train d'essayer de les identifier. Pour l'instant, rien d'interdit. Assigné à résidence, Carlos Ghosn a le droit de sortir librement chez lui et de faire des voyages de moins de 72 heures. Mais à son arrivée dans le Kansai, ça se complique. Il prend un taxi jusqu'à un hôtel de l'aéroport. Deux heures plus tard, les deux personnes qui l'accompagnent ressortent, sans Carlos Ghosn, mais avec deux gros bagages. D'après les enquêteurs cités par les médias nippons, l'ex-PDG pourrait se trouver dans l'un d'eux, des boîtes pour transporter du matériel de concert. C'est comme ça qu'il aurait pu passer les différents contrôles de sécurité, moins stricts pour les jets privés, et s'envoler pour la Turquie, puis pour le Liban.
Récit signé Pierre Herbulot.
Europe 1, Théo Manval.
Il est 21h22, passé de 11 minutes. L'éducation nationale reconnaît sa responsabilité dans la mort de Christine Renon, cette directrice d'école de Pantin qui s'était suicidée au mois de septembre en dénonçant ses conditions de travail. La direction des services départementaux de l'éducation nationale reconnaît, je cite, l'imputabilité à son service de ce décès dans un document rendu public aujourd'hui par le syndicat SNUIPP. Au volet santé, elle vous a peut-être gâché vos vacances. L'épidémie de gastro sévit plus que jamais. Et si vous y avez échappé, ne criez pas victoire trop vite car sa comparse, la grippe, arrive elle aussi. Deuxième épidémie attendue dans les semaines qui viennent. Mais Virginie Salmen, pour l'heure, c'est bien la gastro qui a déjà mis KO plusieurs dizaines de milliers d'entre nous.
Oui, près de 200 000 personnes sont allées consulter pour une gastro au cours de la semaine dernière. Ce sont les derniers chiffres, ce qui veut dire évidemment que beaucoup plus de gens encore ont été malades. Alors toute la France est désormais touchée par l'épidémie. Vous avez peut-être entendu parler ce week-end des gastro causées par les huîtres. Elles contenaient l'un des virus, le norovirus. La pêche et la commercialisation ont été interdites jusqu'à nouvel ordre, notamment dans le Morbihan, dans la zone d'Irel en Ille-et-Vilaine et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors méfiez-vous, si vous avez la gastro, on est encore contagieux jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes, notamment par le biais de tous les objets qu'on touche.
On note bien. Et puis, il y a la grippe, donc ça y est, qui arrive, Virginie.
Oui, alors pour la grippe, l'épidémie est vraiment en train de démarrer. On est dans ce qu'on appelle la phase pré-épidémique dans 6 régions sur 13, notamment l'Île-de-France, PACA et le Centre-Val de Loire, mais les autres ne vont pas y échapper. Avec la rentrée des classes, la propagation du virus s'accélère. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la grippe commence à chaque fois dans les écoles. Un mot du vaccin pour ceux qui le souhaiteraient. On peut encore se faire vacciner, même si c'est un peu juste. L'épidémie est déjà là. Or, il faut quand même 15 jours, une fois la piqûre faite, pour être bien protégé.
Merci beaucoup, Virginie Salmen. Une page culture après présent à 22h13 sur Europe 1, la romancière Virginie Despentes annonce sa démission du jury du prestigieux prix Goncourt, 4 ans après l'avoir intégré. L'auteur de Vernon Subutex ou encore King Kong Theory dit manquer de temps pour écrire. Elle retourne s'installer à Barcelone pour y travailler et remercie les membres de l'Académie en souhaitant, je cite, « longue vie au Goncourt ». Tandis que sur grand écran, bien loin des procès Weinstein, Hollywood décernait hier soir ses Golden Globes. Triomphe pour Quentin Tarantino, meilleur comédie avec Once Upon a Time in Hollywood, pour Sam Mendes, également meilleur film dramatique avec 1917, un film européen qui sera en salle à partir du 15 janvier. Mais ce qu'on retiendra aussi, c'est ce gadin pour Netflix, Mathieu Charrier. Le géant de la vidéo à la demande est reparti quasi bredouille.
Netflix était nommé 34 fois ultra favori, avec notamment le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, ou la nouvelle réalisation de Noah Baumbach, Marriage Story. Nommé 34 fois, Netflix est reparti avec 2 statuettes seulement contre 5 l'année dernière. Même Ricky Gervais, le maître de cérémonie, ironisait au début de la soirée, je cite « Plus personne ne va au cinéma, plus personne ne regarde la télévision ». Tout le monde regarde Netflix. Cette cérémonie devrait se résumer à moi disant « Bien joué Netflix, vous avez tout gagné ». Sauf que non. Ce qui veut dire 2 choses. Déjà, peut-être que les votants pour les Golden Globes ont ainsi voulu rappeler, dans le sillage du Festival de Cannes, que Netflix, c'est très bien, il crée de bonnes choses, mais ce n'est pas du cinéma diffusé sur grand écran et donc ça ne doit pas concourir dans les cérémonies dédiées au cinéma. Et puis, ça montre aussi que la stratégie Netflix est un peu mise à mal parce qu'ils repartent quasi bredouille avec leur branche séries, ce qui est le fondement de leur existence, et idem pour le cinéma, alors que depuis quelques années, ils investissent beaucoup d'argent pour remporter des prix, justement, du prestige et toucher de nouveaux abonnés, et que ça ne marche pas. D'ailleurs, Netflix a reconnu pour la première fois il y a quelques mois avoir perdu des abonnés aux États-Unis, 130 000 de moins, alors que Disney lance sa plateforme, qu'Amazon Prime se renforce, qu'Apple est aussi dans la course. Effectivement, ça se complique pour Netflix.
Mathieu Charrier. On termine avec les sports et en football, la fin en ce moment même des 32e de finale de la Coupe de France. Rouen, équipe de National 2, affronte Metz qui évolue en Ligue 1 et pour l'instant ce sont les Rouennais qui créent la surprise et qui mènent 1-0 après 61 minutes de jeu. Et juste avant ce match a eu lieu le tirage au sort du tour suivant. Quelques belles affiches comme ce Nantes-Lyon. Le PSG se déplacera lui à Lorient, club de Ligue 2. Mais la sensation, ce sera peut-être encore Saint-Privé-Saint-Hilaire, l'un des petits poussé de la banlieue d'Orléans. Ils évoluent eux aussi en National 2. Ils ont réussi l'exploit ce week-end d'éliminer Toulouse, équipe de Ligue 1. Eh bien, ils vont défier Monaco pour la plus grande joie, écoutez, de leur entraîneur Baptiste Ridira.
D'éliminer une Ligue 1, c'est assez incroyable. Et en plus d'enchaîner sur une deuxième Ligue 1, ça veut dire qu'en 2 ans, on aura joué 3 équipes de Ligue 1 avec Rennes la saison passée en 16e. C'est un grand moment, c'est un grand tirage. On va se délecter de ça la semaine prochaine. En attendant, on va préparer le match de ce week-end en N2 en essayant de préserver un maximum les joueurs.
Vous allez les éliminer ?
On va tout faire pour. Je pense qu'il serait prétentieux de dire qu'on va le faire, mais en tout cas, on va essayer.
Voilà, Baptiste Ridira, entraîneur des amateurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire, joint il y a quelques instants par Cyril de la Morinerie. Il est 22h16 sur Europe 1. On jette un coup d'œil à la couleur du ciel avec vous, Anissa, et la couleur, ce sera surtout gris pour demain.
Oui, effectivement, c'est très couvert demain, Théo, sur une grande partie de la France, avec sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la région PACA, les Alpes et la Corse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un ciel très lumineux demain avec un temps sec. Attention sur la Corse, quand même, quelques gouttes sont possibles demain dans l'après-midi. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane se renforcent demain et soufflent encore un peu plus fort, jusqu'à 90 km/h en rafale. Sur le reste du pays, sur la Bretagne, sur les pays de la Loire, le Nivernais, le Jura, les brouillards seront nombreux. Demain matin, prudence si vous prenez la route très tôt. Sur la moitié nord, le ciel est très nuageux, très gris avec des nuages assez bas. Les températures sont en légère baisse demain, moins 3 à 8 degrés demain matin, 0 à Besançon et Clermont-Ferrand, 2 degrés pour Lille, 4 à Paris et 6 à Nice. Dans l'après-midi demain, on attend 5 à 16 degrés de Langres à Perpignan, 11 pour la capitale.
Merci beaucoup, prévision signée Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview écho de Carole Ferry, François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs automobiles français. 2019 a été une très bonne année pour eux. A tout de suite. 22h18, l'heure de faire un point sur la bourse, sur Europe 1 avec vous, Didier Hamaud, boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Théo.
Wall Street résiste malgré les craintes venues du Moyen-Orient.
Oui, Wall Street fait mieux que résister même. Et on limite la casse vraiment puisque le Dow Jones termine en hausse de 0,2%, 0,24%. Alors c'est vrai que la séance a été un petit peu chaotique, c'est logique après ce qui s'est passé évidemment au Moyen-Orient. Le Dow Jones prend finalement 0,24%, c'est remonté sur la fin de séance, 28 703 points. Et le Nasdaq gagne même 0,56%, 9 071 points. L'escalade au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran n'a donc pas eu trop de conséquences pour l'instant, même si le pétrole continue sa progression. On en est quasiment à $70 le baril de Brent. Ça revient un petit peu en arrière ce soir, 68,40. Mais ça reste quand même très élevé et ça explique évidemment la hausse des valeurs pétrolières. Exxon, plus 0,7%. Le géant pétrolier américain est à $70,87. Royal Dutch gagne 0,8%. Aux valeurs de technologie, la tendance est plus partagée. On a des hausses quand même. Apple, quasiment sur les $300. $299 1,80. Apple gagne 0,8%. Amazon reprend 1,5%. Cisco plus 0,4%. En revanche, IBM perd 0,2% et Intel moins 0,3%. Sur les devises, l'euro reste sous les 1,12. Pas beaucoup de mouvement. 1,1195 face au dollar.
À la Bourse de Paris, le CAC 40 a préservé le seuil des 6000 points en clôture.
Oui, finalement, on s'en sort pas mal hein, puisque le CAC perdait 1,5% en matinée et la baisse n'est que de 0,5% à la clôture. Moins 0,51%. Alors évidemment, l'ouverture plus solide que prévu à Wall Street a aidé le marché. Le CAC 40 termine à 6013 points, donc effectivement au-dessus des 6000 points. La casse a été limitée en cours de séance avec les valeurs pétrolières, donc comme à Wall Street. Total gagne 1,5% dans le sillage du baril de brut qui remonte. Total est à 50,80 €. Et puis Technip gagne 0,3%. Et CGG est stable, proche des 3 €. La valeur parapétrolière, donc CGG, qui reste très ferme. L'automobile remonte un petit peu. On a Valeo, plus 1,5%. Plasticomum, plus 1%. Et Renault, plus 0,3%.
L'exception du jour, Didier, le titre Casino, qui a perdu du terrain.
Oui, alors là, on baisse assez nettement, finalement, moins 1,8% sur le distributeur, 39,85 €, qui repasse sous les 40 €. C'est la faute du broker Bank of America, Merrill Lynch, qui a dégradé le dossier Casino en devenant neutre sur la valeur et en visant un cours de seulement 45 €. Un potentiel limité en raison d'une visibilité réduite sur le calendrier de cession du groupe Casino qui continue de se désendetter. Ça donne un titre en baisse, donc en berne d'1,8% ce soir. Suez, autre place financière, donc ça baisse, mais ça baisse modérément finalement. Francfort, moins 0,7%, Bruxelles, moins 0,6%, Madrid, moins 0,5% avec Milan. Le CAC 40 recule, on le rappelle, de 0,51%, 6013 points.
Merci pour ce tour d'horizon. Didier Hamaud de boursier.com. 22h22 sur Europe 1, lors de l'Interview Écho. Avec vous cette semaine, Carole Ferry. Vous recevez ce soir, Carole, François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs automobiles français. Bonsoir à vous.
Bonsoir François Roudier.
Bonsoir.
Alors vous êtes le porte-parole du Comité des constructeurs français automobiles. Vous avez dû passer un excellent réveillon hein, puisque les chiffres du marché automobile publiés le 1er janvier montrent que 2019 a été une excellente année pour les constructeurs français.
Oui, c'est même une surprise. Hein. Ça a été la troisième meilleure année de la décennie passée. Et on a eu une surprise parce qu'on savait que le marché était structurellement très bon. Mais sur le mois de décembre, on a vu pas mal de déstockages de véhicules qui allaient être fortement malussés, comme on dit dans notre jargon, en janvier. Donc il y a eu un petit boost sur un niveau très haut.
En fait, ces fameux véhicules, ce sont donc les SUV. Ils vont avoir un malus là, plus important depuis le 1er janvier. Et les gens en ont profité pour acheter avant que ça soit malussé, c'est ça?
Alors voilà, on a eu à la fois alors des SUV, mais aussi des grosses berlines, des voitures de sport essence
des
qui émettent
qui
beaucoup
polluent.
De CO2 voilà, au kilomètre. Hein, plus vous consommez, plus vous émettez de CO2. Et ces voitures-là allaient être au-delà des 184 grammes de CO2. Donc dans une tranche 170-184, où l'année prochaine, on arrive sur des malus de 20 000 euros. Le malus était plafonné avant à 12 500 euros, et là on va jusqu'à 20 000 euros. Donc là il y a eu effectivement une volonté et une réussite d'ailleurs des vendeurs qui ont réussi à placer ces véhicules.
Alors les constructeurs français en ont profité, Volkswagen également, qui a fait plutôt des bons chiffres, évidemment c'est moins votre secteur, mais vous connaissez toute l'automobile par cœur. Est-ce que la page du Dieselgate est tournée pour le constructeur allemand ou c'est un petit virage?
Oui, non, c'est un petit virage. Hein. Il y a un effort considérable chez eux du marketing pour mettre en avant les voitures électriques, d'ailleurs qui sont développées à coups de milliards et qui sont développées un petit peu tard par rapport à nous, les constructeurs français. Hein. Les anciens patrons de Volkswagen étaient contre les voitures électriques. Maintenant, on a l'impression que c'est une société qui ne fait que de l'électrique. Voilà, donc, bon, c'est bien. Il y a encore pas mal de scories de l'affaire du Dieselgate qui règne chez Volkswagen, des actions peut-être réglées en Allemagne. Non, il y a eu une mauvaise image. Mais dans l'ensemble, on voit que cette image n'a pas trop affecté leurs ventes, hein, même au niveau mondial.
En France, où est-ce qu'on en est de la guerre anti-diesel? Est-ce que nos constructeurs commencent à pouvoir s'y adapter, à prendre le virage? Est-ce que ça reste toujours quelque chose de compliqué? Est-ce qu'on a pris le virage suffisamment lentement pour qu'on s'en sorte? On en est où?
Alors, l'affaire n'est pas lente. Hein. Justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la baisse du diesel a été très rapide. Beaucoup trop rapide, d'ailleurs, pour une partie de l'industrie. Le changement, lorsque vous passez de 60% en diesel dans le marché à 34%,
bon,
certes, c'est par palier. Hein. On était à 39% l'année dernière, on est à 34% cette année. C'est très dur. Les constructeurs français avaient lancé des études sur les véhicules nouvelles énergies il y a plus de 5 ans. Hein. Les voitures que vous voyez sortir dans les concessions actuellement, elles ont été dessinées il y a 5 ans. Donc on s'était préparé à faire de l'électrique. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux, ce sont les petits équipementiers et sous-traitants qui très souvent ont des usines monoproduits. Et ils se retrouvent sur des monoproduits diesel. Alors, petits sous-traitants, je pense même à un gros à Bosch, en particulier à Rodez, qui fait des injecteurs diesel. Et on voit toute la problématique pour restructurer cette entreprise, faire autre chose, mais que ce soit rentable. C'est pas simple. Honnêtement, c'est un sujet qui est difficile. Et ce qu'il y a d'assez terrible sur cette année 2020, c'est qu'on va voir des crises terribles chez des équipementiers qui n'auront pas forcément de porte de sortie. Et puis, d'un autre côté, ma foi, des constructeurs qui s'en sortent pas si mal que ça, et des véhicules nouveaux, très séduisants, qui vont être vendus.
Justement, on va revenir aux ventes de 2019. Quels sont les modèles qui ont beaucoup séduit en 2019? Pourquoi est-ce que nos constructeurs français marchent bien? C'est quoi les modèles qui fonctionnent?
Les modèles, alors, des deux groupes, Renault et PSA, squattent les 13 premières places du marché. Hein, c'est assez impressionnant. Et ce qu'il y a de très marrant, c'est de voir que en fait, les modèles restent à la fois des modèles traditionnels. Vous avez l'éternelle guerre entre Clio et 208. Ça avait commencé avec 205, 206, mais c'est toujours les deux premières.
Ça marche toujours.
Ça marche toujours. Et puis à côté de ça, des voitures maintenant un petit peu plus grosses, plus statutaires, mini SUV, moyen SUV, qui d'ailleurs sont très profitables pour les marques. Hein, ce sont des voitures à forte valeur ajoutée et qui là se sont très bien vendues. Et ça, c'est quand même un retour du haut de gamme français.
C'est les 5008.
Les 5008, les 508, les Talisman, Renault, tout ça, c'est un retour quand même de ce haut de gamme français qui avait un petit peu disparu il y a quelques années.
2020, vous voyez les choses comment, puisque ce sont les SUV qui ont porté un peu 2019 et que là, a priori, ils devraient peut-être moins s'en vendre puisque les malus vont être plus importants. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un marché plus atone?
Alors non, on devrait avoir un marché qui se stabilise, qui descendra peut-être un petit peu, parce que là, tous les arbres ne montent pas au ciel. On va voir beaucoup de nouveaux modèles qui vont arriver, des modèles électrifiés, hein, que ce soit des purs électriques ou des hybrides. D'ailleurs, des SUV qui seront hybrides, hein, donc on n'enterre pas le
c'est
SUV.
C'est quoi les modèles à suivre pour 2020 là?
Oh, on va voir la électrique 208, i208. Vous allez avoir la nouvelle Clio qui a déjà été lancée et qui commence très bien, qui est vraiment très différente de l'ancienne, avec une autonomie étendue. Et tout ça doit dessiner ce que va être la voiture dans les années à venir. Hein. Donc on est vraiment à l'an 1 du changement.
Avec la fin des véhicules...
Avec un jour la fin des véhicules 100% thermiques. Hein, le challenge, il va être là maintenant. L'industrie a fait son boulot. Le commerce maintenant a ses véhicules, doit les vendre. Alors certes, il y a des fanatiques qui vont les prendre tout de suite. Il n'y a même pas besoin de les vendre. C'est des voitures qu'ils vont acheter. Mais après, il va falloir être capable d'expliquer à monsieur tout le monde qui va vous dire, je prends quoi, une essence, un diesel ou votre électrique? Et là, ça va être...
Qui reste très cher.
Et qui reste beaucoup plus cher, c'est vrai. Pour l'instant, vous savez que dans l'automobile, c'est les coûts d'échelle qui font diminuer. Mais on n'avait pas beaucoup de modèles. Là, vous avez sur le marché français, tout confondu, français et étranger, 33 nouveaux modèles électrifiés qui arrivent cette année. Donc on est sur une offre nettement plus conséquente. Et là, il va vraiment falloir qu'il y ait une très bonne force de vente pour faire comprendre aux clients l'utilité de ces véhicules. Ne pas vendre aux clients des véhicules qui ne leur conviennent pas, parce qu'avoir un mauvais ambassadeur, c'est ce qu'il y a de pire. Avoir un bon ambassadeur, c'est très profitable. Et il y a une expérience Renault qui est très bien vue, c'est qu'ils ont vu que leurs clients qui étaient passés à l'électrique restent à l'électrique. Donc une fois qu'on a été convaincu, en général on est convaincu. Donc on sait qu'on peut avoir de très bonnes ventes et faire de très bons ambassadeurs. Mais attention à ne pas vendre n'importe quoi aux clients.
Rendez-vous à la même date l'année prochaine et on fera le point. Merci François Roudier.
Et merci à vous Carole Ferry, on retrouve votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr. Vous restez avec nous, dans un instant on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos quotidiens, demain matin, 5 ans après, toujours Charlie s'affiche en une de Libération de cette écriture un peu tremblante, blanche sur fond noir. On commémore en effet demain le 5e anniversaire de la tuerie du 7 janvier 2015, où 12 personnes, notamment les membres de la rédaction de Charlie Hebdo, ont perdu la vie sous les balles des frères Kouachi. Libération est allée à la rencontre de l'équipe reconstituée du journal et s'interroge sur ce qu'il reste de l'esprit Charlie, l'esprit de mobilisation qui avait suivi. ce choc. Charlie qui sera en première page de bon nombre de vos quotidiens en région aussi demain. En une de la Nouvelle République, par exemple, 5 ans après l'attentat, Charlie résiste toujours, écrit l'ANR. 5 ans après, Charlie est bien trop seul, ça ce sera l'édito de l'Alsace. Bien trop seul pour se défendre, écrit Laurent Baudin. Le pluralisme de la presse comme des opinions, le pluralisme de la presse comme des opinions face à un politiquement correct qui galope. Mais la vie continue et demain matin, ce sera aussi à la une des Échos, l'inquiétude autour de ces tensions qui ne retombent pas entre les États-Unis et l'Iran. Les Échos qui alertent sur la menace d'un nouveau choc pétrolier. Le pétrole repasse la barre des 70 dollars du baril pour la première fois depuis septembre et ces tensions inquiètent les marchés financiers. Elles profitent en revanche à un business caché, nous disent les Échos. Un business entre Israël et les monarchies du Golfe. C'est donc l'enquête à lire demain matin. Mais pour l'heure, il est 22h30 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Olivier Delacroix qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Théo.
On est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1.